ce matin. Je suis seul ce matin. Annie est pas, m'a pas accompagné. Elle est avec les gars à l'Assemblée à Sainte-Foy. C'est Jessica qui s'en occupe pour l'école du dimanche. Fait qu'on apprécie vraiment tout le travail qu'elle fait pour nous. Fait que salutations à tout le monde. Ce matin, on va regarder dans Éphésiens, chapitre 4. On va regarder quelques versets ce matin. Donc, dans Éphésiens 4, ça va être les versets 17 à 24. Juste avant, je vais faire un petit contexte, puis je peux vous donner le titre que je vous propose, c'est « Il faut changer d'habit » et comprendre avec le passage le pourquoi il faut changer d'habit, c'est un peu imagé, c'est ça l'objectif. Mais il faut toujours placer un message qu'on apporte dans son contexte. Quand on lit la parole de Dieu, un verset, il faut tout le temps le placer dans son contexte. Je vous remets dans le contexte un petit peu, là, les premiers chapitres. Grosso modo, on dit souvent que l'Épître aux Éphésiens, bien, il y a six chapitres. Les trois premiers sont un peu plus doctrinaux. Les trois suivants, c'est un peu plus mise en pratique. Donc, chapitre 4 aujourd'hui dans la mise en pratique. Puis, on peut se souvenir aussi que Paul a écrit cette lettre-là quand il était en captivité. Si vous avez une bonne mémoire, la dernière fois que j'étais venu, on achevait le livre des Actes. Puis le livre des Actes s'achève avec le fait que Paul arrive à Rome, puis il va être en prison à Rome pendant quelques années. Mais il va écrire quatre épîtres à Rome, donc captif, donc en prison. Les premiers sont faciles à retenir, ils finissent tous par la même chose, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, puis il va écrire Philémon aussi, quand il va être en prison à Rome. Donc, Éphésiens en fait partie. Puis, donc, il écrit cette lettre-là aux Éphésiens, donc il y a des chrétiens à Éphèse. Il va leur écrire cette lettre-là, mais Éphèse, on la voit dans le livre des Actes. Puis, c'est une ville qui était très importante pour le commerce à l'époque, mais il y avait d'autres choses aussi. C'est qu'il y avait un temple, le temple d'Artémis, le temple de Diane, selon les versions. C'est la même personne, la même fausse déesse, si on veut, d'Artémis et Diane. Puis on dit de ce temple-là que c'était une des sept merveilles du monde antique. Donc, ça promet quelque chose de beau extérieurement, là, au niveau architectural, mais ça amenait un paquet d'idolâtrie puis de la débauche. On dit qu'il y avait des milliers de prostituées dues au temple. C'est quand même quelque chose. Donc, la prostitution, lui, quelqu'un qui pense... Donc, c'était accepté, cette prostitution-là était acceptée, mais c'est un peu tordu. On voit la moralité, comment elle est malléable, elle peut être tordue, la moralité, parce que en prétendant rendre un culte à une déesse, bien, la prostitution était comme permise et tolérée. C'est quand même quelque chose de spécial. Fait que Paul, évidemment, a eu des troubles quand il était à Éphèse, parce que il y avait, si vous vous souvenez, dans le livre des Actes, les orfèvres... Les autres faisaient des statues en argent, j'imagine. Fait que ça nuisait à leur commerce, la prédication de Paul. Puis la même chose, évidemment, les gens vivaient dans la débauche, étaient contents de ça. Donc, la prédication de Paul, c'est sûr que ça leur nuisait, donc ils n'étaient pas contents. Donc, Paul a eu des troubles à Éphèse, évidemment. Puis, mais il faut savoir que Paul écrit à ces Éphésiens-là, parce que les chrétiens éphésiens vivent encore dans ce monde-là. Ils sont encore à Éphèse. Peut-être qu'ils ont des tentations de retourner. C'est sûr que c'était un peu culturel, ils habitaient là, donc il y a peut-être la tentation d'y retourner. Mais tentation ou pas, tous leurs proches, leurs amis, leurs familles sont encore dans ce monde-là. Donc, ils vivent encore à Éphèse. Donc, c'est certainement pas facile pour les chrétiens éphésiens d'habiter là-bas. Mais ce que Paul nous dit dans ce que je m'apprête à lire, c'est qu'une fois qu'on devient chrétien, notre façon d'être, de vivre, de penser, bien, elle doit changer. Puis elle doit changer comme on change de vêtements, donc mon titre, c'est « Il faut changer d'habit ». Vous allez voir dans ce que je vais lire, on parle de se dépouiller du vieil homme, puis de revêtir l'homme nouveau, donc l'idée de changer d'habit. Donc, je vais lire les versets dans le chapitre 4 d'Éphésiens, 17 à 24. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, c'est un court passage qu'on a, mais c'est très riche. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Fait que mon objectif, c'est qu'on apprenne ça, que ce ne soit pas juste la connaissance, mais que ça nous transforme, qu'on mette en pratique, évidemment. Donc, juste avant de diviser le passage, je vais l'avoir divisé en trois parties, mais encore un petit contexte. C'est que le païen, on a vu le terme païen ici, là, puis dans le terme, souvent dans l'Ancien Testament, les païens, c'est tous ceux qui sont non-juifs. Dans le Nouveau Testament, ça va être souvent tous les incroyants. Mais ce qu'on voit aussi, une des leçons principales, vous voyez tout de suite, c'est qu'il faut qu'il y ait une différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Puis les gens d'Éphèse avaient une réalité différente, mais on va, les descriptions qu'on a lues aujourd'hui, on peut facilement voir le monde dans lequel on est, ça n'a pas changé beaucoup, là. Une autre petite chose aussi, vous voyez que au verset 17, on commence avec une transition. Là, donc, voici donc. Fait que je vais juste rappeler un peu, puis il y a d'autres transitions. On va dire c'est pourquoi, mais, qu'on a notre. Tu sais, souvent, quand on a ces mots-là, il faut se souvenir de ce qu'il y a avant. Fait que je ne lirai pas le début du chapitre, mais je vais juste rappeler juste quelques éléments que Paul mentionne. Parce que c'est pourquoi. Donc, il y a une explication qui s'en vient. Donc, juste faire allusion à ce que Paul a dit juste avant. Au verset 1, pas besoin de le lire, vous pouvez le lire si vous voulez, mais je fais juste un résumé de ça au verset 1. Il va dire, « Je vous exhorte, trois petits points, à marcher d'une manière digne. » Donc, marcher d'une manière digne. Ensuite, au verset 12, il parle du perfectionnement des saints. Qui sont les saints? C'est tous ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, qui croient au Seigneur Jésus, on est des saints. Donc, il faut se perfectionner. C'est ce que Paul mentionne aux Éphésiens. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, trois petits points, à la mesure parfaite de Christ. Donc, on a un objectif, il faut parvenir à la mesure parfaite de Christ. Puis, un dernier petit élément au verset 15, que nous croissions à tous égards. Donc, Paul nous appelle à croître en maturité spirituelle à tous égards, finalement. Donc, c'est un peu ça le résumé de ce que Paul vient de mentionner. Fait que maintenant, on se retrouve devant on fait quoi, une fois que ça s'est dit. Donc, c'est le c'est pourquoi. Il faut revêtir l'homme nouveau, il faut changer d'habit. Donc, c'est un peu le résumé, donc c'est ce qui s'en vient. Donc, ça commence, notre passage commence comme ça. Puis pour la suite, je propose trois parties. Puis les trois parties, je vais faire un peu comme une vie chrétienne, comme un témoignage. Il y a trois parties dans une vie chrétienne, de quelqu'un qui est né de nouveau. Il y a un avant, un comment, puis un après. Puis je pense que le texte qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est pas mal ça qu'on a. Il y a un avant, un comment et un après. Donc, c'est ma façon de diviser aujourd'hui ce passage-là. Donc, commençons avec le « avant », les versets 17 à 19 que je vais relire. Je peux se permettre de les relire vu qu'il y a juste 8 versets dans le texte de ce matin. Donc, les versets 17 à 19, notre « avant ». « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » C'est quand même une description un peu dure que Paul fait contre les païens. Mais on était tous comme ça avant de se convertir au Seigneur. Pour ceux qui ont cru au Seigneur, il faut changer d'habit, mais avant, on était comme ça. C'est notre avant aussi à nous. Puis tous ceux qui ne sont pas sauvés sont encore dans cette description-là. Souvent, on pense que les païens, faut sacrifier des victimes à des idoles pour être païens, vivre dans la débauche, puis tout ça. Mais non, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas chrétiens, peu importe leur statut moral, si on veut, bien, ils correspondent à cette description-là quand même. Puis une autre chose aussi, c'est que, en voyant la description que Paul fait des païens, on pourrait se dire, on voit très bien le monde d'aujourd'hui dans lequel on est aussi. Est-ce que le monde dans lequel on vit est meilleur ou pire que celui dans lequel Paul vivait? Je ne le sais pas, je n'étais pas là. Mais les descriptions que Paul fait d'Éphèse, « fit », en guillemets, très mauvais français, très bien avec notre monde d'aujourd'hui quand même. C'est même caractéristique. Fait que Paul va donner à peu près, on peut résumer en 7 caractéristiques là, des païens d'Éphèse. Mais je vais redonner un petit mot sur chacune de ces caractéristiques-là. Mais l'objectif, c'est de voir, oui, c'est le monde païen, mais c'est ce qu'on était avant. Puis c'est un danger pour nous quand même de retomber là-dedans. On a changé de nature, on est transformé par le Seigneur, mais quand même, ça peut être un piège, puis des fois, tentant de retomber dans ce avant-là, même si on ne devrait pas. Donc, on va regarder rapidement les 7 caractéristiques avec cette idée-là en tête. C'était nous avant, mais il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut pas juste pointer du doigt en disant ça, c'est des païens, on sait bien. On était comme ça avant, donc ayons cette compassion avec les gens qui sont perdus pour essayer d'être un bon témoignage devant eux, pour justement qu'ils changent aussi comme nous, idéalement. Là. Je dis ça en toute humilité. Là. On n'est pas parfait du tout, mais il faut représenter Christ quand même dans le monde. Donc, qu'on soit un bon témoignage. Donc, je résume en 7 caractéristiques que Paul dresse. La première qu'il va dire, c'est « vanité de leur pensée ». Le mot « vanité », ce n'est pas un terme qu'on utilise nécessairement souvent. Salomon le fait, dans Ecclésiaste, sauf erreur, quand il dit « vanité des vanités », tout est poursuite du vent, etc. Mais ça veut dire « vanité », ça veut dire, c'est un synonyme de « vide ». C'est-à-dire, les pensées, la vie, elle est vide de sens. C'est quand même pas rien. Ça veut dire que c'est une vie sans but. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ont une vie sans but. Fait que c'est quand même pas rien. Puis pensez aussi, dans toutes les caractéristiques-là, là, Christ est complètement à l'inverse. Là. On s'entend, là, toutes les descriptions, là, Seigneur, puis ce qu'on devrait être, c'est complètement à l'opposé de tout ça. C'est une vie sans but. Donc, les gens qui sont comme ça, les païens d'Éphèse ou nous avant, ou ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne se préoccupent pas des choses importantes ou ne leur donneront pas un sens moral. Fait qu'ils vivent selon leur bon désir, sans aucune crainte de Dieu. C'est triste quand même, mais c'est ce qui nous caractérisait, puis c'est ce qui était le cas à Éphèse, donc le mot « vanité ». L'autre expression qu'on a aussi va dire « intelligence obscurcie » ou « aveuglée », ce serait un synonyme dans ce cas-ci. Ils ne sont pas capables de différencier le bien et du mal, de comprendre les vérités spirituelles. Ça aussi, ça nous caractérisait avant. Peu importe le statut moral qu'on avait, il y a des gens qui ont une vie morale meilleure que d'autres, mais quand même, l'intelligence est obscurcie. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir intelligents ou sages à leurs propres yeux, mais ça, c'est une grave erreur aussi, parce qu'un non-croyant, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ne peut pas raisonner correctement, même s'il a un quotient intellectuel très élevé. C'est une intelligence, c'est pas, puis on pourrait en nommer des gens qui, exemple de nos jours, Elon Musk, quelqu'un de très connu, puis je ne sais pas son statut, selon moi, il n'est pas sauvé, mais je ne le connais pas. Ce qui est sûr, c'est que son quotient intellectuel est extrêmement élevé, c'est une personne extrêmement brillante. Mais ce que la Bible nous dit, c'est s'il ne connaît pas Dieu, son intelligence, elle est quand même obscurcie, elle est aveuglée. Il n'est pas vraiment intelligent, malgré son super QI. Puis là, je ne veux pas juger lui en particulier, là. Mais il y a des gens très brillants au niveau cerveau, si on veut, mais ils ont l'intelligence obscurcie, ils ne connaissent pas Dieu quand même. Dans Romains, on lit, dans 1:22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Des fois, à nos propres yeux ou aux yeux des autres, on peut être bien brillant, mais selon Dieu, pas du tout, s'il n'y a pas de crainte de Dieu. Une autre caractéristique, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, c'est des gens qui, par leur dureté de cœur, ils ont choisi, ou inconsciemment ou pas, de ne pas connaître Dieu, de ne pas rechercher sa direction. Ils vont se faire des idoles. Dans le cas d'Artémis, ils faisaient des idoles. Il y avait un commerce de ça aussi, la débauche, tout ça. Selon leur propre compréhension, mais ce faisant, en se faisant des dieux à ta propre image ou selon tes désirs personnels, quasiment, bien, ils deviennent étrangers et loin de Dieu. Triste aussi. Piège qui peut nous arriver des fois de s'éloigner de Dieu, même si on est transformé quand même. Bon, Dieu est toujours pas loin de nous autres, c'est sûr. Mais c'est un piège. On était comme ça aussi avant, donc étrangers à la vie de Dieu. Dans sa prière, notre frère vient de parler du mot « ignorant », une autre caractéristique qu'on voit ici. D'être ignorant. Les gens peuvent se trouver, comme je disais, intelligents à leurs propres yeux, mais s'ils ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas la volonté de Dieu pour eux, bien, ils sont ignorants. Ça, peu importe leur quotient intellectuel, ils sont ignorants. Puis peu importe ce qu'eux pensent d'eux-mêmes ou ce que les autres pensent d'eux aussi. Ce n'est pas le monde qui juge, c'est Dieu qui juge. D'un point de vue de Dieu, ils sont ignorants. Puis en fait, ils ne connaissent pas les choses importantes, puis ils ne savent pas les choses qui peuvent leur donner la vie éternelle. Ça, c'est très ignorant, ça. C'est triste, mais c'est très ignorant aussi, ce qui peut leur donner la vie éternelle et la réconciliation avec Dieu. Tu as beau être très brillant, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, bien, tu demeures ignorant quand même. Une autre caractéristique, donc tout le temps dans l'idée de ce qu'on était avant, donc il ne faut pas juste pointer les païens, on était comme ça, puis des fois, on peut retomber là-dedans aussi. L'autre caractéristique là, que je résumerais, c'est qu'ils ont le cœur endurci, ils ont perdu tout sentiment. Il ne faut pas que ça nous arrive à ça aussi, mais c'est parce qu'à force de tolérer le péché dans ta vie, à force de ne pas distinguer le bien du mal, bien, tu peux finir qu'à baisser ton niveau de moralité, puis donc d'avoir ton cœur endurci. On en voit beaucoup dans la Bible, des gens qui s'endurcissent eux-mêmes, Pharaon, entre autres, à un moment donné, il s'endurcit. Mais c'est ça, à force de tolérer le péché, oh, ta moralité descend, ça devient comme un acquis, si on veut, une habitude. Puis tu vas t'endurcir, tu vas perdre tout sentiment. Même, on peut finir par éteindre notre conscience de quelqu'un qui vivrait dans le péché ou qui tolérerait du péché. Évidemment, il y a des choses culturelles. À Éphèse, il partait avec... quand tu vis là-dedans, l'espèce de débauche-là, tu pars avec deux prises, peut-être contre toi, là, mais c'est susceptible de le monde dans lequel on vit, certainement qu'il peut y avoir des pièges pour même un croyant dans tout ça, de s'endurcir puis de tolérer tranquillement, pas vite, des péchés dans nos vies. Puis finalement, ça, on s'endurcit par rapport à certains péchés. C'est un piège qu'on a. Donc, les païens, décrits ici, ils développent cette espèce d'insensibilité morale-là, une insensibilité spirituelle, puis ils vivent là-dedans, puis ça devient, tu sais, la différence entre le bien et le mal, ils ne le voient plus vraiment. Là. Donc, ils ont le cœur endurci, ils ont perdu tout sentiment. Une sixième caractéristique, on a le mot « dissolu » dans la version que j'ai lue. « Dissolu », je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on entend souvent, là, mettons, dans une cour d'école, c'est une chicane entre deux, je ne pense pas que l'autre va traiter l'autre de « dissolu ». Je ne pense pas que c'est une expression qu'on voit souvent, mais des synonymes, ça pourrait être « déréglé » ou « dépravé ». Donc ça donnerait plus de sens pour nous probablement que le terme « dissolu ». Mais ce que ça veut dire, c'est une absence de toute retenue morale. Donc, c'est quelque chose quand même, il ne faut surtout pas que ça nous caractérise encore aujourd'hui, mais dans notre avant, c'était peut-être le cas. Donc, absence de toute retenue morale. Bref, un comportement immoral devient accepté. Dans un cas comme ça, il n'y a plus vraiment de distinction entre le bien et le mal. Fait que toute notre compréhension puis nos agissements deviennent déréglés. Quand on est comme les païens d'Éphèse, il n'y a plus de cadre moral finalement. Fait que, puis on peut penser, eux autres, à Éphèse, c'est quand même particulier. Ils prétendaient rendre un culte à une déesse avec la prostitution. C'est quand même spécial. Mais aujourd'hui, on verrait notre moralité. La pornographie, entre autres, c'est pas illégal, la pornographie, mais c'est déréglé. Fait que tout le monde païen, dans le monde dans lequel on vit, il est déréglé. Il est dissolu ou il est dépravé, si on veut. Donc, c'est des pièges potentiels pour nous aussi. On habitait, on habite encore là-dedans, on était comme ça avant. Puis on habite encore dans un monde comme ça, donc c'est des pièges potentiels pour tous et chacun à se méfier de ça. Une dernière caractéristique que Paul indique, impur et cupide. Cupide non plus, c'est pas un terme qu'on utilise très souvent, ça veut dire un désir immodéré. Bon, selon Larousse, c'est le désir immodéré de l'argent et des richesses, mais je pense qu'on peut ajouter toutes sortes d'impuretés. Dans le cas d'Éphèse, c'était clairement l'impureté sexuelle. Donc, c'est un désir insatiable, en fait. C'est une envie toujours plus grande de commettre des péchés. Donc, ça, c'est un danger qui nous guettait avant, qu'il faut faire attention encore aujourd'hui. Donc, les païens sont impurs, mais ils en veulent toujours plus. Tu sais, le péché, des fois, ça peut être attirant, mais c'est jamais satisfaisant. Donc, tu en veux toujours plus. Tu t'en vas toujours plus dans le péché, tu en veux plus, tu n'es jamais satisfait, tu en veux encore plus. C'est un péché qu'il y avait à Éphèse. On vivait là-dedans avant. Il ne faut plus que ça nous caractérise aujourd'hui, certainement. Fait que c'est tous des éléments qui étaient, tu sais, quand je parlais de faut changer d'habit, ça c'est le vieil homme, ça c'est notre vieil habit, là. Bien, on fitait, excusez-moi l'expression, mais parfaitement avec ces caractéristiques-là, mais ça, là, ça va à la poubelle. Là. C'est pas comme un vêtement qu'on donne à un autre parce qu'il ne fait plus. Là. Ça, c'est vraiment c'est un vêtement taché, moisi, puis on met ça au rencor, puis on ne le ressort plus. Là. Fait que ça, c'est notre avant, ces caractéristiques-là. Donc, oui, les païens, on peut pointer du doigt, mais on était comme ça avant, donc il faut compartir là-dessus, mais c'est des pièges dans lesquels on peut retomber et qu'il ne faudrait pas non plus. Donc ça, c'est le avant. Maintenant, le comment, c'est les versets 20 à 21 que je relis. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Bon, il y a quelques expressions dans le verset 20-21, mais grosso modo, c'est un synonyme de salut. Il s'adresse, Paul, à ce moment-là, aux gens qui sont sauvés, sont scellés du Saint-Esprit. Puis on voit, il y a une transition, « mais vous ». Donc là, il s'adresse vraiment aux chrétiens. Il vient de décrire les païens, ce qu'on était avant, mais là, il s'adresse vraiment aux chrétiens, « mais vous ». Donc c'est un changement radical. Il ne faut plus qu'on corresponde à ce qu'il vient de dire. Les caractéristiques, que j'ai résumées en 7 éléments, là, il ne faut plus qu'on soit associé à ça du tout. Donc, « mais vous ». Puis, il va utiliser l'expression comme ça, « comme vous avez appris Christ ». Christ, comme je disais tantôt aussi, il est complètement à l'opposé des descriptions qu'on vient de donner là, que Paul vient de décrire. En fait, il est complètement à l'opposé des païens, puis c'est aussi ce qu'on doit devenir. Quand Paul dit le perfectionnement des saints, Ben, faut grandir puis viser la perfection de Christ. Est-ce que c'est facile? Absolument pas. Mais c'est l'exhortation que Paul fait quand même. Il faut se perfectionner en sainteté. C'est ce qu'on doit devenir. Puis au verset 21, il y a deux fois le mot « si ». Parce que Paul s'adresse vraiment aux chrétiens. Donc, pour ça, il faut l'avoir connu. Il faut que le Seigneur Jésus soit notre Seigneur et Sauveur pour pouvoir changer d'habit. Parce que sinon, on est encore... Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, qui ne croit pas au Seigneur Jésus, bien, il est encore exactement dans les caractéristiques, aux yeux de Dieu, exactement aux caractéristiques que je viens de décrire, que Paul vient de mentionner. Donc, c'est vraiment important. Puis ça, en fait, c'est le plus important. Si quelqu'un n'est pas passé par cette réconciliation-là, il y a rien, c'est la priorité absolue. Il n'y a rien de plus important que ça dans le monde, que d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir ce nouvel habit-là, puis de jeter le vieux. Là. On ne devient pas parfait, pas encore, on va l'être un jour, mais en attendant, il faut changer cet habit-là. C'est extrêmement important. Puis cette partie-là, le comment, cette transformation-là, qui est personnelle à chacune, c'est pas long dans une vie. Par rapport à l'avant et après, il y en a qui viennent au Seigneur beaucoup plus jeunes, d'autres beaucoup plus tard. Le larron sur la croix, son après est très, très court. Mais au moins, il est né de nouveau, si on veut, quand même. Fait que le avant, le après sont plus longs, mais le comment, il est beaucoup plus court, mais il est extrêmement important. C'est le plus important qu'on peut avoir dans notre vie, c'est de connaître Dieu puis naître de nouveau, d'être réconcilié avec lui. Puis là, tout ce qu'on disait tantôt, la vanité, une vie qui n'a pas de sens, bien, notre vie prend un sens quand on devient chrétien, quand on devient enfant de Dieu. Fait qu'au moment de la conversion, bien, il y a une transformation majeure qui se produit, qu'on peut imaginer comme le dépouillement du vieil homme, revêtir l'homme nouveau. Moi, j'appelle ça changer d'habit. Donc, on a un nouvel habit quand on vient au Seigneur. Donc, peu importe le moment, du comment est peut-être pas long, mais il est crucial, extrêmement important. Là, on s'en va vers le après, donc les versets 22 à 24 que je vais relire. Donc, avant, comment, après, verset 22. Par rapport à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Comme je disais, une fois qu'on est sauvé, notre vie a un sens. C'est peut-être qu'on cherchait un peu, puis souvent, c'est un peu mon cas, mais on cherche un sens à la vie au début. Quand on est de nouveau, là, il y en a un sens, c'est de glorifier Dieu. Notre intelligence devient éclairée par le Saint-Esprit, par sa parole. Puis là, on va vivre de moins en moins pour plaire, pour satisfaire nos désirs. Le but, c'est on veut glorifier Dieu. C'est pas facile, mais c'est notre but quand même. On veut accomplir sa volonté dans nos vies. Je lis un petit commentaire que j'ai lu en préparant le message, que je vous lis comme ça. « Devenus chrétiens, nous n'avons pas simplement changé nos pensées, nous avons changé notre citoyenneté. Nous appartenons à la nouvelle création de Dieu en Christ. C'est pourquoi les idées et les désirs de l'ancienne création ne doivent plus diriger notre vie. » C'est pas simple, mais nos désirs changent quand même, même si on chute régulièrement. D'où vient l'expression maintenant au verset 24 de « revêtir l'homme nouveau ». On est une nouvelle création quand on vient au Seigneur. Donc, on doit penser puis agir différemment. Je lis un verset là-dessus. Vous pouvez tourner si vous voulez. C'est dans 2 Corinthiens, verset 5, 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous pouvez tourner, je vous laisse quelques instants. C'est un seul verset, mais qui confirme un peu cette pensée-là. Là, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est nous autres, ça. Une nouvelle création. L'expression « vieil homme », ça a vraiment le sens d'user. Quelque chose qui n'a plus de valeur maintenant, notre ancienne vie. Fait qu'il faut s'en dépouiller, comme Paul nous dit, puis il faut vraiment s'en débarrasser. On ne donne pas ça à un autre. Des fois, des vieux linges, oh, il ne nous fait plus, on ne l'aime plus, on donne ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment une expression dans le sens qu'on le dépouille, on le met aux poubelles. On met le feu dedans, puis il n'a plus le d'avant. Il faut laisser ça de côté complètement. Parce qu'on a, ça c'est pas simple, on n'a pas encore un corps incorruptible. On va l'avoir, Dieu nous le promet, mais quand même, ce que Paul nous dit, il faut quand même revêtir l'homme nouveau en attendant ce corps-là qu'on va avoir. Le problème, c'est que le péché nous environne encore. Puis on peut tacher nos vêtements. Moi, quand je vois mes gars manger du spaghetti avec leur chandail blanc, ils vont tacher leurs vêtements. On tâche nos vêtements quand même, nous autres. Même si on revêt l'homme nouveau, il y a un réel combat entre le vieil homme et le nouveau. Ça veut dire qu'on est encore comme les Éphésiens étaient à Éphèse, à une place de débauche. Leurs amis, leurs familles sont encore là-dedans. C'est facile de tâcher tes vêtements quand tu es entouré de ces saletés-là. Il y a un réel combat, mais le commandement de Paul, il ne le présente pas comme étant une option. Ce qu'il nous dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Ce n'est pas simple, mais c'est le commandement qu'on a quand même, l'exhortation de Paul. Fait que Paul ordonne les Éphésiens à renoncer à leur ancienne vie et à vivre réellement comme des disciples de Christ. On doit être renouvelé. Il faut passer d'impur à saint à parfaitement saint. Ce qui est compliqué, ce qui n'est pas simple, c'est facile à dire comme ça, l'exhortation. On sait très bien que ce n'est pas simple d'arriver comme ça. Parce que le salut, c'est une fois pour toutes. Quand on vient au Seigneur, on est scellé du Saint-Esprit, c'est une fois pour toutes. On peut tomber, trébucher, on ne perdra pas notre salut. Dieu nous prend en charge, on ne perdra pas notre salut, mais la transformation, le perfectionnement des saints, ça, c'est une marche à tous les jours. Puis c'est une marche de tous les jours qui n'est pas facile, parce qu'on tombe, il faut se relever. Mais c'est essentiel à prendre soin de nous, parce qu'en 2024, comme je disais, je ne sais pas si on est dans un monde meilleur ou pire que les Éphésiens, mais clairement, on est entouré de toutes ces caractéristiques-là que j'ai lues tantôt. Il y a un paquet de pièges qui peuvent nous faire tomber, qui sont peut-être dans certains cas pas illégales, mais assurément déréglés. Ça nous environne. Il faut faire attention à tout ça. C'est un paquet de faux plaisirs et de pièges potentiels qui nous environnent. Donc, il faut vraiment se méfier. Fait que là arrive la question suivante, c'est qu'on est une nouvelle création, on a un nouvel habit, mais pourquoi est-ce que je commets encore des péchés? C'est étonnant, ça j'aimerais ça, ne plus commettre de péchés, plus de mauvaises paroles, de mauvaises pensées. Mais on est encore là-dedans. Je lis un autre commentaire que j'ai lu, que je vous lis comme ça. Ben, c'est pas simple, c'est vrai, on est une nouvelle création, mais on commet encore des péchés. Le péché réside encore dans la chair, de telle façon que nous sommes empêchés et retenus de manifester pleinement notre nouvelle nature. Le croyant est entièrement transformé, mais pas encore totalement parfait, malheureusement. Le péché réside encore en lui, mais ne règne plus. Ça, c'est une grosse distinction. Le péché ne règne plus. Il ne doit plus régner. Il n'est plus le vieil homme corrompu, mais le nouvel homme créé dans la justice et la sainteté qui atteint son salut complet. L'idée, c'est qu'on trébuche encore souvent, malheureusement, bon, parce qu'on est encore corruptible. C'est ça, on a une nouvelle nature, on change d'habit, mais on est encore corruptible. Ça, c'est dommage, mais on a un but. On veut vivre pour la gloire de Dieu, on veut accomplir sa volonté, on veut lui ressembler. Puis quand on tombe, on se relève, puis on continue. C'est pas simple. La vie, le salut, c'est une fois pour toutes. Le Seigneur nous attire à lui quand on est sauvé. C'est une fois pour toutes, mais la marche, c'est compliqué. Mais c'est ce que Paul nous amène à faire. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la transformation va être complète. Elle va être parfaite un jour. Quand on va le voir face à face, on va avoir un nouveau corps. C'est difficile à concevoir quand même, parce qu'on a connu le péché. Mais un jour, même si on l'a connu, on va être incorruptible. C'est fantastique quand même. On ne fera plus de mauvaises actions, c'est une chose. Plus de mauvaises paroles, mais plus de mauvaises pensées. C'est quand même quelque chose. C'est aussi une autre coche, mais à ce moment-là, on aura un corps incorruptible. Puis notre marche avec Dieu va être plus simple et plus paisible, j'imagine. Moins de chutes, assurément, évidemment. Mais en attendant, c'est ce que Paul nous explique. On est dans un processus un peu plus compliqué, mais le perfectionnement des saints. Donc, c'est ce qui nous appelle à faire. Fait que c'est sûr que la leçon principale dans ce texte-là, je pense qu'il est un peu évident. En fait, il dit lui-même, je prends deux morceaux du texte qu'on a lu pour les mettre bout à bout pour faire la leçon. Vous ne devez plus marcher comme les païens, trois petits points, mais revêtir l'homme nouveau. Ça, c'est vraiment, je pense, la leçon qui sort, puis le lien avec mon titre, il faut changer d'habit. Si jamais vous repassez, quand vous lisez ce passage-là, changer d'habit, bien, pensez à ça, puis pensez à dépouiller, revêtir l'homme nouveau, dépouiller de l'ancien. Donc, vous ne devez plus marcher comme les païens, mais revêtir l'homme nouveau. Mais je vais décliner la leçon en deux, le pourquoi. Pourquoi on ne doit plus marcher comme les païens et revêtir l'homme nouveau? La première chose, pour le perfectionnement des saints, c'est ce que Paul nous commande ici. Parce que notre tendance naturelle, c'est de suivre nos propres désirs. Culturellement, on est comme ça aussi. C'est facile pour nous. Des fois, c'est plus facile de tomber dans la tentation que de lutter contre la tentation puis de se perfectionner en sainteté. C'est c'est plate comme ça, on est entouré de paquets de pièges. Mais notre transformation en homme nouveau, comme je disais, c'est un long processus. On avance tranquillement, on trébuche, on recule, on est déçus nous autres, on se relève. Mais c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on revête l'homme nouveau, puis qu'on soit perfectionné en sainteté, puis qu'on devienne de plus en plus en marchant avec lui à l'image de son Fils. Pas simple, on trébuche tout le temps, comme je disais, mais c'est la raison première pourquoi on doit revêtir l'homme nouveau. Donc, c'est la première raison pour le perfectionnement des saints. Deuxième raison pourquoi on ne doit plus marcher comme les païens, mais revêtir l'homme nouveau pour refléter le changement et être de bons témoignages. Parce que c'est vraiment important. Notre façon de vivre, elle doit glorifier Dieu. Elle doit permettre aux gens de voir qu'on est différent. Puis là, je pose une question qui est très personnelle, mais est-ce que notre vie, est-ce qu'on reflète toujours la nouvelle création qu'on est, notre nouvel habit, ce changement du vieil homme à l'homme nouveau? Est-ce qu'à tous les jours, est-ce qu'à chaque occasion, est-ce que les gens peuvent remarquer ça? C'est une question personnelle. Mais probablement que la réponse n'est pas oui. Fait que c'est un enjeu qu'on a. On doit refléter cette nouvelle nature qu'on est. En fait, notre vie doit changer, puis elle doit refléter ce qu'on est. Donc, c'est un habit neuf, ce qu'on pourrait dire, c'est, mettons, là, c'est très, très imagé, mais quelqu'un qui aurait un habit neuf et resplendissant, normalement, c'est visible par les autres. Mais notre vie doit être un peu ça aussi. Imaginez les gens à Éphèse, les chrétiens à Éphèse, monde qui était probablement très, très semblable à aujourd'hui. Bien, est-ce qu'il y avait vraiment une différence? Est-ce que les gens pouvaient voir que c'est des chrétiens, ils ne sont pas pareils? Il y a quelque chose d'attirant, puis il me semble qu'ils ont l'air plus paisés, même s'ils ne commettent pas les mêmes péchés que nous autres. Bien, ils étaient d'une certaine façon un peu des lumières dans les ténèbres, si on peut le dire. Bien, c'est exactement ce qu'on doit être aussi, nous autres, dans notre monde. Donc, c'est pas simple non plus, mais on doit représenter avec ce nouvel habit-là, on doit représenter quand même quelque chose de différent, pour que les gens, puis qui sait, d'attirer d'autres personnes à lui aussi. C'est un de nos rôles aujourd'hui, glorifier Dieu avec notre attitude différente, mais aussi attirer d'autres personnes à lui. Donc, je résume la leçon. Donc, la leçon principale, vous ne devez plus marcher comme les païens, mais revêtir l'homme nouveau. Puis pour deux raisons, pour se perfectionner en sainteté, mais aussi pour refléter le changement et être de bons témoignages. Donc voilà, c'est le message que j'avais pour vous. Je terminerai avec un mot de prière. Seigneur, on est reconnaissant d'avoir la liberté d'ouvrir ta parole. Et Seigneur, on te demande certainement pardon de quand on lit ça. Ce serait facile de dire, pointer les autres, les Éphésiens dans ce cas-ci, pas les chrétiens, mais évidemment les païens éphésiens, mais Seigneur, on est dans un monde tout à fait semblable. Et aide-nous, Seigneur, à être des lumières là-dedans, à pu tomber, Seigneur, constamment, comme on le faisait avant, alors qu'on avait peu de cadre moral, si on veut, on vivait sans toi, on était étrangers, loin de toi. Mais maintenant, Seigneur, qu'on t'a connu, aide-nous, Seigneur, sur une marche de tous les jours, se perfectionner en sainteté, se dépouiller du vieil homme, revêtir l'homme nouveau, Seigneur, c'est compliqué. On tombe, on est souvent déçus de nous, puis on sait que, d'une certaine façon, on est indigne de toi encore. Il n'y a aucun moment dans lequel on est digne de toi. Mais on te remercie de nous pardonner. Et Seigneur, aide-nous dans cette marche quotidienne qu'on a avec toi, pour qu'on arrête de trébucher, mais qu'on se relève quand c'est le cas, et qu'on ait une vie qui te glorifie, Seigneur. En terminant, je prie pour tous et chacun ici. Bénis l'Assemblée de Sainte-Marie, Seigneur, que ta main soit sur chacun d'entre nous et bénis la semaine qui commence. On prie en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Amen.